C'était depuis son retour de Moscou la troisième visite qu'Ivan Fiodorovitch faisait à Smerdiakov. Il s'étonnait qu'Alyosha ne voulût même pas soupçonner Mitya et accusa si nettement Smerdiakov d'être l'assassin. Tous les détails de l'interrogatoire qu'on lui avait communiqué et ses entrevues avec Mitya avaient convaincu Ivan de la culpabilité de son frère. Disons à ce propos qu'il n'aimait pas son frère Dmitri. C'est tout au plus qu'il éprouvait pour lui de la pitié mêlée à un profond mépris. Aussitôt après sa première entrevue avec Mitya, Ivan s'était rendu à l'hôpital où Smerdiakov était alité. Le docteur Erzenstube et le médecin de l'hôpital Varlinsky, aux questions d'Ivan Fiodorovitch sur l'état du malade, répondirent catégoriquement que l'épilepsie avait été constatée et parurent surpris qu'Ivan leur demanda si elle n'avait pas été feinte le jour de la catastrophe. Ils lui dirent même que c'était une crise extraordinaire qui avait duré plusieurs jours et mis en danger la vie du malade. Ce n'était que depuis peu qu'on pouvait, grâce aux mesures prises, répondre de sa vie. En tout cas, sa raison demeurait troublée, sinon pour toujours, au moins pour longtemps. En apercevant Ivan, Smerdiakov eut un sourire méfiant et manifesta même un peu de terreur. Du moins, cela parut ainsi à Ivan Fiodorovitch. Mais cela dura peu. Smerdiakov se calma et, durant toute la visite, fut d'un flegme étonnant. Il semblait vraiment très malade, maigre et jaune à faire peur. Son visage desséché de scopette s'était ratatiné, les cheveux en broussaille, l'œil gauche toujours un peu cligné, rappelait seul l'ancien Smerdiakov. Il y a plaisir à parler avec un homme intelligent. Pourquoi Ivan Fiodorovitch se rappela-t-il tout à coup ce mot d'adieu de Smerdiakov ? Peux-tu me parler ? Demanda-t-il. Je ne te fatiguerai pas trop ? Non, répondit Smerdiakov d'une voix faible. Y a-t-il longtemps que vous êtes revenu ?
Je viens d'arriver.
Smerdiakov soupira. Mais pourquoi soupires-tu ? Tu n'avais pas prévu tout cela ?
Ce n'était pas difficile à prévoir, dit Smerdiakov après un silence. Mais comment aurais-je pu deviner qu'on mènerait l'affaire de cette façon ?
Quelle affaire ? On ne ruse pas avec moi. Comment as-tu pu prévoir que tu aurais une crise ? Tu m'as même annoncé qu'elle te prendrait à la cave.
L'avez-vous déjà dit au juge ? Demanda tranquillement Smerdiakov.
Ivan Fiodorovitch se fâcha. Non, je ne l'ai pas encore dit, mais je ne manquerai pas de le dire. Tu as des explications à me donner, frère, et sache que je ne te permettrai pas de te jouer de moi, mon cher.
Mais pourquoi me jouerais-je de vous ? C'est en vous seul que j'ai confiance, comme en Dieu, dit Smerdiakov, sans se départir de son calme singulier.
D'abord, je sais qu'on ne peut pas prévoir une crise d'épilepsie. J'ai pris des renseignements, inutile de chercher à me tromper.
Comment donc as-tu pu me prédire le jour, l'heure et le lieu ?
Comment pouvais-tu savoir d'avance que tu aurais une crise et qu'elle te prendrait dans cette cave ?
Mais j'allais plusieurs fois par jour à la cave, répondit avec lenteur Smerdiakov. C'est ainsi qu'il y a un an, je suis tombé du grenier. Il est en effet impossible de prévoir le jour et l'heure d'une crise, mais on peut avoir des pressentiments.
Le jour et l'heure, tu m'as prédit le jour et l'heure.
Bon, ce qui concerne ma maladie, va demander des renseignements au médecin. Je n'ai plus rien à dire à ce propos.
Mais la cave, comment savais-tu d'avance que cela se produirait à la cave ?
Oh, vous en êtes encore à cette cave. Eh bien, en descendant dans cette cave, j'avais peur, je me défiais. J'avais peur parce que vous partiez, je n'avais plus personne pour me défendre. Et aussitôt que je fus entré dans cette cave, je me mis à penser, oh, voilà que ça va venir, tomberai-je, vais-je tomber? C'est sans doute cette appréhension qui me donne les spasmes, et je suis tombé. Toute notre conversation de la veille, vous vous souvenez, près de la porte cochère, et toutes les peurs que j'ai eues en cet instant, dans la cave, oh, j'ai tout dit au médecin, Erzenstube, et au juge d'instruction, Nikolaï Parfenovitch. Le docteur Vavinsky a précisément expliqué que c'était l'appréhension qui avait amené la crise et a consigné le tout dans ma déposition. Mais Smerdiakov, fatigué par l'effort qu'il venait de faire en parlant, respira péniblement. « Alors, tu as déjà fait toutes ces déclarations ?» demanda Ivan Fyodorovitch un peu surpris. Il comptait, pour faire parler Smerdiakov, sur la peur qu'il devait avoir de cette révélation, et voilà qu'elle était déjà faite. « Qu'ai-je à craindre? Qu'il sache toute la vérité ?» dit Smerdiakov à voix haute. « Et tu as aussi raconté dans tous les détails notre conversation près de la porte cochère ?»« Non, pas tous les détails. » « As-tu dit aussi que tu sais feindre une crise, comme tu t'en es vanté avec moi ?»« Non. »« Dis-moi maintenant, pourquoi tu m'envoyais à Tcherashnia ?»« Vous vouliez aller à Moscou, Tcherashnia est plus près. »« Tu mens, tu m'as conseillé toi-même de partir. »« C'était par amitié, par dévouement. » Après moi-même, c'est vous qui m'intéressez le plus. D'ailleurs, je vous ai dit de vous en aller pour vous faire comprendre qu'il allait m'arriver un malheur et qu'il fallait rester pour défendre votre père. Tu aurais pu me parler franchement, alors, imbécile. Mais j'avais peur de Dmitri Fyodorovitch. Et puis, j'aurais jamais cru qu'il irait jusqu'à l'assassinat. Je pensais qu'il se contenterait de prendre l'argent. D'ailleurs, qui aurait jamais pu le croire? Mais alors, puisque tu dis toi-même que personne n'aurait pu le prévoir, comment moi l'aurais-je prévu? Qu'est-ce que toutes ces ruses? Mais il fallait me comprendre. Je vous conseillais d'aller non pas à Moscou, mais à Tcherimachnia. Cela signifiait que je désirais que vous fussiez le plus près possible. « Certes, oui, j'aurais dû prévoir. Et en effet, je prévoyais une machination de ta façon. Mais tu mens. Tu mens !» s'écria-t-il comme si un souvenir subit lui revenait. « Tu te rappelles qu'au moment de mon départ, tu m'as dit « Avec un homme intelligent, il y a plaisir à parler. » Tu étais donc content de me voir partir. » Smerdiakov soupira plusieurs fois et rougit. « J'étais content, dit-il en respirant avec effort, de vous voir aller à Tcherimachnia et non pas à Moscou. C'était toujours plus près. Et ce que je vous en ai dit, ce n'est pas un compliment, c'était un reproche. Vous ne m'avez pas compris. Quel reproche? Précisément, je vous reprochais de nous abandonner, votre père et moi. Votre père à qui il pouvait arriver malheur et moi qu'on pouvait accuser d'avoir volé les 3 000 roubles. Que le diable t'emporte. Attends, as-tu parlé des signaux, juge? Oui, tout. Ivan Fyodorovitch s'étonna de nouveau. Je pensais que Dmitri pouvait tuer. « Mais non pas volé. C'est toi qui aurais volé. Tu m'as dit que tu sais feindre les crises. Mais pourquoi m'as-tu dit cela ?»« Par naïveté. D'ailleurs, je n'ai jamais essayé de simuler l'épilepsie. J'ai dit cela par naïveté, par bêtise, et puis parce que j'étais en train de franchise avec vous. D'ailleurs, en vous expliquant toutes mes craintes à propos des signaux connus de Dmitri Fiodorovitch, je pensais être assez clair. J'espérais que vous n'iriez pas à Tcheremachnia.
Mais tout cela est très logique, pensait Ivan. Où sont donc les troubles cérébraux dont parle Zellstube?
Tu ruses avec moi, prends garde.
Non, non, je pensais que vous aviez tout deviné, continua Smerdiakov avec bonhomie.
Mais si j'avais deviné, je serais resté.
Mais j'ai cru que vous partiez par prudence.
Ah, tu me pensais aussi lâche que toi.
Excusez, oui, je pensais que vous étiez comme moi.
Mon frère t'accuse. Il dit que c'est toi qui as tué et volé.
Ben, en effet, que lui reste-t-il à dire? Mais qu'il croira. Toutes les charges sont contre lui. Et Grigori qui a vu la porte ouverte. D'ailleurs, si en effet j'avais pensé à tuer, aurais-je eu la sottise de vous dire à vous, le fils de Fiodor Pavlovitch, que je sais fin de l'épilepsie, me demandez plutôt au juge si les criminels sont si naïfs.
Écoute, dit Ivan Fiodorovitch en se levant, vaincu par cette dernière objection. Je ne te soupçonne pas du tout, il serait ridicule de t'accuser. Je te suis même reconnaissant de m'avoir tranquillisé à ton sujet. Je m'en vais, je reviendrai. Prends guérison, as-tu besoin de quelque chose?
Non, merci, Marfa Inakdievna ne m'oublie pas.
Au revoir. Du reste, je ne dirai pas que tu sais feindre la crise, mais je te conseille aussi de ne pas le dire, dit Ivan, malgré lui.
Je vous comprends. Si vous ne le dites pas, je ne rapporterai pas non plus toute notre conversation de la porte cochère.
Ivan Fiodorovitch sortit. Il n'avait pas fait 10 pas dans le corridor que brusquement il s'arrêta, s'apercevant de l'injure qu'impliquait la dernière phrase de Smerdiakov. Ivan était au moment de revenir sur ses pas, mais il haussa les épaules et continua son chemin. Il se félicitait que Smerdiakov ne fût pas coupable. Pourquoi? Oh, il ne voudrait pas se l'expliquer à lui-même. Il avait du dégoût à fouiller dans ses propres sentiments. Les dépositions, comme nous l'avons dit, affermirent sa conviction. Pourtant, il communiqua à Erzenstube ses doutes au sujet des troubles cérébraux de Smerdiakov. Savez-vous, lui dit le docteur, de quoi il s'occupe maintenant? Il apprend par cœur les mots français. Ivan Fiodorovitch finit par perdre tous ses doutes. Seule l'assurance d'Alyosha le troublait encore. Un jour, il le rencontra et ils eurent cette conversation. « Te rappelles-tu, dit Ivan, cet après-midi quand Dmitri a assommé notre père, je t'ai dit plus tard dans la cour, je laisse à mes désirs toute liberté. Dis-moi, as-tu pensé alors que je désirais la mort de notre père ?»«
Oui, dit doucement Alyosha.
Du reste, n'était pas difficile à deviner. Mais qu'un reptile en dévore un autre, as-tu pensé que par là je voulusse dire que Dmitri tue notre père le plus tôt possible? Et même n'as-tu pas cru que je ne refuserais peut-être pas de l'aider?
Alexei pâlit. Il regardait en silence son frère au fond des yeux.
« Parle, s'écria Ivan, je veux savoir ce que tu as pensé. Il me faut toute la vérité. » Il était haletant, il y avait de la méchanceté dans l'éclat de son regard. « Me pardonne-moi, j'ai pensé cela aussi, » murmura Alyosha. Il se tut sans ajouter aucune circonstance atténuante. « Merci, » dit-il d'un ton sec, Ivan. Et il partit. Depuis, Alyosha s'aperçut qu'Ivan l'évitait. C'est après cette conversation qu'Ivan avait fait à Smerdiakov une seconde visite. Smerdiakov n'était déjà plus à l'hôpital. Il demeurait dans une habitation composée de deux izbas réunies par un vestibule. Maria Kondratievna et sa mère habitaient l'une des deux izbas, Smerdiakov occupait l'autre. On ne savait pas au juste quel genre de relation il avait avec les deux dames. On le supposait fiancé avec Maria Kondratievna, c'est tout. Ivan frappa à la porte. Maria Kondratievna va lui ouvrir et lui indiqua la chambre de Smerdiakov. Une chambre sordide où les cafards s'ébattaient en liberté. La chaleur était intense. Il y avait une table en bois blanc couverte d'une nappe à dessin rose. Sur les fenêtres, des géraniums. Dans un coin, des icônes. Sur la table, un petit samovar vide, presque hors de service, et deux tasses. Sverdiakov se tenait assis sur un banc auprès de cette table et écrivait dans un cahier. Il avait le visage plus frais, moins maigre qu'à l'hôpital. Il était peigné et pommadé, vêtu d'une robe de chambre ouatée, multicolore, très usée. Il portait des lunettes qu'Ivan ne lui avait jamais vues. Ce détail l'irrita. Une pareille créature portait des lunettes. Smerdiakov dressa la tête sans hâte et regarda fixement son visiteur à travers ses lunettes. Puis il les ôta et se leva paresseusement, sans aucune humilité, comme résolu à s'en tenir à la plus stricte politesse. Ivan remarqua tout cela en un clin d'œil, et surtout le regard mauvais et même hautain de Smerdiakov. Ce regard semblait dire « Oh, mais que viens-tu faire encore chez moi? N'avons-nous pas assez causé déjà ?»« Il fait chaud ici !» dit Ivan encore debout. Il déboutonna son paletot. « Ôtez-le !» dit Smerdiakov d'un ton de condescendance. Ivan Fyodorovitch ôta son paletot, prit de ses mains frémissantes une chaise qu'il approcha de la table et s'assit. « D'abord, sommes-nous seuls ? » demanda-t-il sévèrement. « Ne nous écoute-t-on pas ?»« Personne, vous avez dû voir qu'il y a un vestibule. »« Au fait, alors, qu'est-ce que tu chantais quand je t'ai quitté la dernière fois à l'hôpital ?» Que si je ne parle pas de ton art de feindre l'épilepsie, tu ne rapporteras pas au juge toute notre conversation auprès de la porte cochère. Que signifie ce tout ? Qu'entends-tu par là ? Était-ce une menace ? Voulais-tu dire que je suis ton complice, que j'ai peur de toi ? Ivan semblait parler avec une franchise calculée. Le regard mauvais de Smerdiakov s'accentua. Son œil gauche se mit à cligner. Il répondit aussitôt, avec sa froideur habituelle, comme s'il avait voulu dire « Ah ben, tu veux que nous parlions franchement, soit. » « Mais je sous-entendais alors que, prévoyant l'assassinat de votre propre père, vous l'aviez laissé sans défense. Eh bien, je vous promettais de ne pas révéler vos prévisions, afin que les gens ne puissent se douter de vos mauvais sentiments, ou même d'autre chose. » Smerdiakov prononça ces paroles avec le plus grand calme. Il était maître de lui, son ton avait même quelque chose d'insolent. « Comment, quoi, es-tu fou ? Non, je suis extrêmement sensé. Mais est-ce que je savais alors que cet assassinat s'écria Ivan Pierdolovitch en frappant violemment la table du poing. « Mais qu'est-ce que signifie cette autre chose? Parle, misérable !» Sverdiakov se taisait et considérait Ivan Fyodorovitch avec une insolence évidente, cette fois. « Parle donc, bête puante! Qu'est-ce que cette autre chose ?» hurla Ivan. « Mais peut-être désiriez-vous vous-même la mort de votre père ?» Ivan Fyodorovitch sursauta et frappa de toutes ses forces Sverdiakov à l'épaule. Sverdiakov chancela et se retint au mur. Subitement, son visage s'inonda de larmes. « Il est honteux pour vous, monsieur, de battre un homme faible !» Il se couvrit le visage de son sale mouchoir à carreaux bleus et se mit à sangloter. « Assez, cesse donc !» dit impérieusement Ivan Fyodorovitch en s'asseyant de nouveau. « Ne me pousse pas à bout !» Sverdiakov ôta de ses yeux son chiffon. Tous les traits de son visage sillonné de rides exprimèrent une intense rancune. « Donc, misérable, tu me croyais d'accord avec Dmitri pour tuer notre père ?»« Je ne connaissais pas vos pensées, et c'est pour les connaître que je vous ai arrêté auprès de la porte quand vous alliez entrer. »« Quoi, connaître quoi ?»« Précisément, si vous désiriez que votre père fût tué. » Ce qui exaspérait Ivan, c'était le ton provocant dont Sverdiakov semblait ne vouloir pas se départir. « C'est toi qui l'as tué !» Sverdiakov sourit dédaigneusement. « Vous savez fort bien vous-même que ce n'est pas moi. J'aurais cru qu'un homme intelligent comme vous ne serait pas revenu sur cette question. Mais pourquoi avais-tu cette pensée ?» Comme je vous l'ai dit, déjà, par peur, je me défiais de tout le monde. Il y a 15 jours, tu parlais autrement. À l'hôpital, je sous-entendais la même chose. Je pensais que vous m'aviez compris et que vous éviteriez cette explication. Voyez-vous cela? Mais réponds donc, réponds, j'insiste. Pourquoi cet ignoble soupçon est-il tombé dans ton ignoble cœur? Tuer vous-même, vous ne le pouviez, ne le vouliez, mais qu'un autre assassinat, vous le vouliez. Avec quelle placidité il dit cela, mais pourquoi l'aurais-je voulu? Comment, pourquoi, et l'héritage? Vous deviez recevoir 40 000 roubles chacun, à la mort de votre père, et peut-être davantage. Tandis que si Fyodor Pavlovitch avait épousé cette dame Agrafiena Alexandrovna, vous n'auriez rien eu. Ivan Fyodorovitch avait peine à se contenir. « C'est bien, » finit-il par dire. « Tu vois, je ne t'ai pas battu. Alors, d'après toi, j'avais chargé mon frère Dmitri de l'action. Je m'en reposais sur lui. Certainement, en assassinant. » Il perdait tous ses droits à la noblesse, aux dignités, à la propriété. Et c'est plus 40 000 roubles qui vous revenaient. Mais la moitié du tout, c'est-à-dire 60 000. Eh bien, je supporte cela encore. Mais écoute, misérable, c'est sur toi, non pas sur Dmitri, que j'aurais pu compter pour l'assassinat. Et je te le jure à ce moment-là, j'ai pressenti quelque ignominie de ta part. Je me rappelle très nettement cette impression. Moi aussi, j'ai senti que vous comptiez sur moi, dit avec une extraordinaire puissance d'ironie Sverdiakov. Et par là même, j'ai compris que si, malgré ce pressentiment, vous partiez, c'était comme si vous me disiez oh, et tu peux tuer mon père, je ne te le défends pas. Misérable, tu avais compris cela? Mais jugez donc vous-même. Vous alliez partir pour Moscou. Vous aviez refusé à votre père d'aller à Tcheretsmachnia. Et vous déférez aussitôt à l'invitation d'un homme tel que moi. C'est donc que vous attendiez quelque chose de moi ? Non, non, je jure que non ! Cria Ivan en grinçant des dents. Comment donc non ? Vous auriez dû, vous, fils de Fiodor Pavlovitch, pour de telles paroles me mener à la police et me faire fouetter. Au lieu de me battre sur place, vous suivez mon conseil. Vous partez au lieu de rester pour défendre votre père. Mais que pouvais-je conclure ? Ivan restait sombre, accoudé sur ses genoux. « Oui, je regrette de ne t'avoir pas assommé alors, » dit-il avec un amer sourire. « Il est évident que je n'aurais pas pu te mener à la police, qui m'aurait cru, mais je regrette de n'avoir pas fait une cacha de ton museau. » Sverdiakov s'épanouissait de joie. « Dans les cas ordinaires de la vie, » dit-il d'un ton satisfait et doctoral, « cette transformation d'un museau en cachat est interdite par la loi. On a d'ailleurs renoncé à ces procédés brutaux. Mais dans des cas extraordinaires, non seulement chez nous, mais dans le monde entier, même dans la République française, on continue à se gourmer comme au temps d'Adam et d'Ève. Pourquoi, vous, dans un cas extraordinaire, vous n'avez pas osé ? Qu'est-ce que cela ? « Oh, tu apprends la langue française !» demanda Ivan en désignant d'un hochement de tête le cahier que Sverdiakov avait posé sur la table. « Pourquoi ne l'apprendrais-je pas ? Je complète mon instruction. D'ailleurs, je pense avoir, moi aussi, ces heureuses contrées de l'Europe. »« Écoute, bandit !» éclata Ivan. « Je ne crains pas tes accusations. Tu peux déposer contre moi tout ce que tu voudras. » Si je ne t'assomme pas à l'instant, c'est uniquement parce que je te soupçonne du crime et je veux te confondre devant le tribunal. À bon sens, vous seriez plus sage de n'en rien faire, car que pouvez-vous dire contre moi et qui vous croira ? Si vous ouvrez la bouche pour m'accuser, je dirai tout. Il faut bien que je me défende. Mais tu crois donc que je te crains ? Peut-être les juges ne me croiraient-ils pas, mais j'aurais pour moi l'opinion publique. Ah oui, c'est-à-dire, il y a plaisir à parler avec un homme intelligent, n'est-ce pas ? Précisément, et vous êtes un homme intelligent. Ivan Fiodorovitch se leva, tout frémissant de rage, prit son paletot et, sans plus répondre à Sverdiakov, sans même le regarder, il se précipita hors de l'isba. Les pensées se pressaient dans son esprit. En effet, pourquoi suis-je allé à Tcheremachnia ? Certainement, je prévoyais quelque chose. Il a raison, oui, j'ai prévu et j'ai voulu. J'ai voulu l'assassinat. L'ai-je voulu ? Oh, il faut que je tue Sverdiakov. Si je n'ai même pas le courage de tuer Sverdiakov, c'est pas la peine de vivre. Ivan Fiodorovitch alla directement chez Katerina Ivanovna, qui fut épouvantée par ses yeux hagards. Il lui rapporta toute sa conversation avec Sverdiakov dans tous les détails. Elle avait beau parler, il ne parvenait pas à se calmer. Il allait de long en large à travers la chambre, disant des choses incohérentes. Et si ce n'est pas Dmitri, dit-il en s'arrêtant, et si c'est Sverdiakov, je suis son complice, c'est moi qui l'ai poussé au crime. Mais y ai-je poussé ? Oh, je ne sais pourtant. Oui, si c'est lui qui a tué, non pas Dmitri, l'assassin véritable, c'est moi. À ces mots, Katerina Ivanovna se leva sans parler, prit dans un tiroir un papier qu'elle mit sous les yeux d'Ivan. C'était précisément le document dont il avait parlé à Alyosha, comme d'une preuve matérielle de la culpabilité de Dmitri. C'était une lettre que Mitya avait écrite en état d'ivresse à Katerina Ivanovna le soir de sa rencontre avec Alyosha sur la route du monastère. Une lettre incohérente d'ivrogne. La voici. Fatale Katia, je trouverai demain de l'argent et je te rendrai tes 3 000 roubles. Adieu, femme violente, adieu aussi, mon amour. Finissons. Demain, j'irai chez tout le monde chercher de l'argent. Et si je ne réussis pas à m'en procurer par des emprunts, je te donne ma parole d'honneur que j'irai chez mon père. Je lui casserai la tête et je prendrai sous son oreiller l'argent aussitôt qu'Ivan sera parti. J'irai au bagne, mais je te rendrai tes 3 000 roubles. Toi, Dieu, je te salue jusqu'à terre. Je suis un misérable auprès de toi. Pardonne-moi. Non, plutôt, ne me pardonne pas. L'avenir nous sera pour tous deux plus facile à supporter si tu ne pardonnes pas. Je préfère le bagne à ton amour, car j'en aime une autre, une que tu connais depuis trop longtemps, depuis aujourd'hui. Oh, je tuerai l'homme qui m'a dépouillé, et je vous quitterai tous. J'irai en Orient pour ne plus voir personne, elle non plus, car tu n'es pas seule à souffrir. Adieu. Post-scriptum. Je te maudis, et pourtant je te vénère. Je le sens au battement de mon cœur. Il y reste une corde qui vibre pour toi. Que plutôt il cesse de battre. Je me tuerai, mais je tuerai d'abord le maudit. Je lui arracherai les 3 et je te les jetterai. Je serai un misérable, mais non pas un voleur. Attends les 3 000. Ils sont chez le chien maudit, sous son matelas, ficelé d'une faveur rose. Ce n'est pas moi qui volerai. Je tuerai l'homme qui m'a volé, Katia. Ne me méprise pas. Dimitri est un assassin. Il n'est pas un voleur. Il a tué son père et il s'est perdu lui-même parce qu'il n'a pu supporter ton mépris et parce qu'il voulait échapper à ton amour. PPS, je baisse tes pieds à Dieu. PPSS, Katia, prie Dieu que les gens me donnent de l'argent, alors je ne verserai pas de sang. Mais s'ils refusent, je le verserai. Tue-moi, ton esclave et ton ennemi, Dimitri Karamazov. Quand Ivan eut lu ce document, il parut complètement convaincu. C'est Dmitri qui a tué et non Smerdiakov. Et si ce n'est pas Smerdiakov, ce n'est donc pas moi. Cette lettre était à ses yeux une preuve irréfutable. Le lendemain, il songea encore, mais avec mépris, aux railleries de Smerdianov, et puis il résolut de n'y plus penser. Un mois se passa ainsi. Il entendit seulement le médecin Varvinsky dire que Smerdiakov mourrait fou. Lui-même se sentait malade et consulta le célèbre médecin que Catherine Ivanovna avait mandé de Moscou. Vers cette époque, ses rapports avec Catalina Ivanovna se tendirent extrêmement. C'était comme 2 ennemis amoureux l'un de l'autre. Aussi faut-il dire que parfois, Catalina Ivanovna laissait voir des regrets que ce fut Mitya qui eût tué son père, et Ivan détestait pour cela Mitya. Pourtant, il lui proposa un plan d'évasion et mis de côté pour l'exécution de ce plan 30 000 roubles. Peut-être le mot de Smerdiakov, qu'Ivan désirait que Mitya accomplît le crime afin qu'il fût frustré de sa part dans l'héritage, n'était-il pas pour rien dans cette détermination d'Ivan? D'ailleurs, au fond de son âme, je suis peut-être aussi coupable que lui-même, se disait-il. La phrase de Katerina Ivanovna devant Alyosha. Mais c'est toi seul qui m'as assuré que Mitya est coupable. Décida Ivan à faire une troisième visite à Smerdiakov. C'était elle pourtant qui lui avait prouvé par ce document la culpabilité de Mitya. Et voilà qu'elle était allée chez Smerdiakov. Elle n'était donc pas bien convaincue. Et qu'avait pu lui dire Smerdiakov? Je le tuerai peut-être cette fois, songeait Ivan en se dirigeant vers l'isba de l'ancien laquais. En lui ouvrant, Maria Kondratievna pria Ivan de ne pas retenir trop longtemps Smerdiakov parce qu'il était très fatigué. Ivan Fyodorovitch entra dans l'isba. Elle était toujours aussi surchauffée. Il y avait quelques changements dans la chambre. On avait substitué à l'un des bancs un grand divan recouvert de cuir avec des oreillers. Smerdiakov, toujours vêtu de sa vieille robe de chambre, se tenait assis sur le divan. Il échangea avec Ivan un long et silencieux regard. Évidemment, il s'attendait à cette visite. Il était très changé, maigre et jaune, les yeux enfoncés, les paupières inférieures blêmies. Oui, tu es vraiment malade, dit Ivan Fyodorovitch, je ne resterai pas longtemps. Il s'assit sur une chaise auprès de la table. Pourquoi ne me parles-tu pas? Je viens te poser une seule question, mais je te jure que je ne partirai pas sans réponse. La Barina Katerina Ivanovna est venue chez toi? Smerdiakov gardait toujours le silence. Puis il fit un geste et se détourna. « Qu'as-tu ?»« Rien. »« Quoi, rien ?»« Eh bien, elle est venue. »« Qu'est-ce que cela vous fait? Laissez-moi tranquille. »« Non, je ne te laisserai pas tranquille. Parle. Quand est-elle venue ?»« Mais je n'y pense même plus, » dit Smerdiakov avec un geste dédaigneux. Tout à coup, se tournant vers Ivan, il lui jeta un regard profondément haineux. Ben, « Je crois que vous êtes malade aussi, comme vous avez changé. Laisse ma santé et réponds à ma question. Pourquoi vos yeux sont-ils si jaunes? Oh, c'est le remords. » Il se mit à ricaner. « Écoute, je t'ai dit que je ne partirai pas sans réponse !» s'écria Ivan irrité. « Mais que voulez-vous de moi? Pourquoi me torturez-vous? Tu m'importes peu, que diable! Réponds, je m'en vais aussitôt !»« Mais je n'ai rien à vous répondre !»« Je te forcerai bien à parler !»« Mais pourquoi cela vous inquiète-t-il tant ?» Il y avait maintenant plutôt du dégoût que du mépris dans la voix de Smerdiakov. C'est parce que c'est de mal jugement, reprit-il. Eh bien, rassurez-vous donc, vous ne risquez rien. Allez-vous-en chez vous sans inquiétude et dormez en paix. Mais je ne te comprends pas, qu'ai-je donc à craindre demain? Fit Ivan étonné. Tout à coup, une peur glaciale l'envahit. Smerdiakov le toisa du regard. Vous ne comprenez pas? Quel plaisir y a-t-il pour un homme intelligent à jouer une telle comédie? Ivan le regardait sans parler. Ce ton inattendu, hautain, de l'ancien laquais, surprenait son ancien maître. « Je vous dis que vous n'avez rien à craindre. Je ne déposerai pas contre vous. Il n'y a pas de preuve. Mais voyez comme vos mains tremblent. Pourquoi donc? Allez-vous-en. Ce n'est pas vous l'assassin. » Ivan tressaillit. Il se souvint d'Alyosha Je sais que ce n'est pas moi, murmura-t-il. Ah, vous le savez!
Ivan frémit. Il saisit Smerdiakov par l'épaule.
Parle donc, reptile, dis tout!
Smerdiakov ne manifesta aucune terreur. Il regarda seulement Ivan avec une haine folle.
Eh bien, oui, c'est vous qui avez tué, puisqu'il en est ainsi, souffla-t-il avec rage.
Ivan s'affaissa sur sa chaise et sourit d'un air méditatif.
Ah, c'est la chanson de la dernière fois.
Eh oui, vous la compreniez la dernière fois, et vous la comprenez toujours aujourd'hui encore.
Je comprends seulement que tu es fou.
Quel obstiné, mais nous sommes ici tête à tête. Pourquoi nous jouer la comédie l'un à l'autre?
Tenez-vous à me charger, à m'accuser, quand il n'y a personne là que vous et moi?
C'est vous qui avez tué. C'est vous le principal assassin.
Bon, vous avez aspiré, et j'ai accompli.
Accompli? Tu as tué? Quelque chose comme une brisure se produisit dans son cerveau. Un frisson courut tout son corps. Ce fut à Smerdiakov à le regarder avec étonnement. Il était intrigué par la sincérité de l'épouvante d'Ivan.
Mais ne saviez-vous donc rien?
Dit-il avec méfiance. Ivan resta longtemps à l'examiner silencieusement.
Sais-tu? J'ai peur que tu sois un fantôme, murmura-t-il.
Oh, il n'y a pas de fantôme ici, sauf vous, moi et encore un autre qui se trouve entre nous deux.
Qui? Quel troisième? Demanda Ivan Fiodorovitch avec épouvante, en cherchant autour de lui.
Ben, c'est Dieu, la Providence. Dieu est ici, près de nous. Mais ne le cherchez pas, vous ne le trouverez pas.
Tu as menti. Ce n'est pas toi qui as tué, cria Ivan avec fureur. Ou tu es fou, ou tu t'abuses à m'exaspérer, comme la dernière fois.
Smerdiakov le dévisagea sans manifester aucune crainte. Il était toujours défiant, il croyait toujours qu'Ivan savait tout et qu'il feignait d'ignorer pour rejeter sur son complice tout le poids de la culpabilité.
« Attendez un peu, » dit-il d'une voix faible.
Il retira de dessous la table son pied gauche et se mit à retrousser son pantalon. Il était chaussé d'un bas blanc, très montant, et d'une pantoufle. Sans hâte, il ôta une jarretière, passa la main dans son bas. Ivan Fiodorovitch le suivait du regard. Soudain, il tressaillit de frayeur.
« Fou !» hurla-t-il.
Il se leva vivement et fit quelques pas en arrière, si précipitamment qu'il se heurta du dos au mur et resta comme cloué sur place, regardant Smerdiakov avec une terreur folle. Celui-ci, toujours impassible, continuait à fouiller dans son bas comme s'il voulait y saisir quelque chose. Enfin, il trouva ce qu'il cherchait. Ivan Fiodorovitch l'en vit tirer les papiers, une liasse de papiers que Smerdiakov posa sur la table.
« Voilà !» dit-il à voix basse.
« Quoi ? Peux-tu y regarder ?» Ivan s'approcha de la table, prit la liasse, le déplia, et laissa les papiers tomber de ses doigts comme s'il eût touché quelque reptile dégoûtant et redoutable.
Vos doigts tremblent toujours, remarqua Smerdiakov. Avez-vous une convulsion? Et il se mit à déplier lui-même le paquet des 3 000 roubles. Oh, ils y sont tous, vous n'avez pas besoin de les compter. Recevez, ajouta-t-il en tendant les billets à Ivan. Ivan s'affaissa sur sa chaise, il était pâle comme un linge. Tu me fais peur, dit-il avec un étrange sourire. Alors vraiment, vous ne le saviez pas encore? Non, je ne le savais pas. Je croyais que c'était Dmitri. Ah, Dmitri, Dmitri! Il prit sa tête entre ses mains. Écoute, tu étais seul, sans mon frère? Seul avec vous seul? Dmitri Fiodorovitch est innocent. C'est bien, c'est bien. Nous parlerons de moi plus tard, mais pourquoi tremblais-je ainsi? Je ne puis prononcer un mot. Vous qui avez tant de courage, tout est permis, disiez-vous. Et maintenant vous êtes si effrayé, dit Smerdiakov avec un profond étonnement. Voudriez-vous un peu de limonade? Je vais dire qu'on en apporte, ça rafraîchit. Mais il faudra d'abord cacher cela. Il désigna la liesse. Il fit un mouvement vers la porte, puis posa sur l'argent un gros livre jaune. Le titre de ce livre était « Discours de notre Saint-Père Isaac sur Bine ». Non, je ne veux pas de limonade. Assieds-toi et dis-moi tout. Oh, vous feriez bien ôter votre paletot, autrement vous auriez trop chaud en sortant. Ivan Fiodorovitch arracha son paletot et le jeta sur un banc, sans se lever de sa chaise. Parle, je t'en conjure, parle. Il semblait calmé. Il était sûr que cette fois, Smerdiakov lui dirait tout. C'est-à-dire comment la chose s'est passée, dit Smerdiakov avec un soupir. Mais de la manière la plus naturelle, les paroles que vous avez prononcées alors. Nous reviendrons plus tard sur mes paroles, interrompit Ivan sans colère, comme s'il fût rentré en pleine possession de lui-même. Raconte-moi seulement, avec ordre et détail, comment tu as agi. N'oublie rien. Les détails, tous les détails, je t'en prie. Vous étiez parti, je suis tombé dans la cave. Une vraie crise ou bien si tu feignais? Évidemment, je feignais. Je suis descendu tranquillement jusqu'en bas. Je me suis étendu et aussitôt j'ai commencé à hurler jusqu'au moment où l'on vint me ramasser. Arrête. Et aussi après, à l'hôpital, tu feignais encore? Oh, pas du tout. Dès le lendemain matin, avant qu'on me portât à l'hôpital, j'ai été pris d'une véritable crise, la plus forte crise que j'ai eue depuis des années. J'ai été 2 jours sans connaissance. Bien, bien, continue. On me mit alors sur mon lit, dans ma chambre. J'étais séparé de Marfa Inagnievna et de Grigori par une cloison. Pendant la nuit, je gémissais, mais doucement. J'attendais toujours Dmitri Fiodorovitch. Comment tu l'attendais? Tu croyais qu'il viendrait chez toi? Bon, pourquoi chez moi? J'attendais qu'il vînt à la maison. J'étais sûr qu'il viendrait précisément cette nuit. Puisque je ne pouvais plus lui servir d'intermédiaire, j'étais sûr qu'il franchirait la clôture pour se renseigner par lui-même. Et s'il n'était pas venu, alors rien ne se serait passé. Dieu, Dieu, allez, parle sans te presser, n'oublie aucun détail. Je n'attendais donc pas qu'il viendrait tuer Fyodor Pavlovitch. J'en étais sûr, car je l'avais bien préparé pour cela, durant les derniers jours. Arrête. Mais s'il l'avait tué, il aurait pris aussi l'argent. C'est ainsi que tu devais raisonner, mais quel intérêt avais-tu donc à ce qu'il tuât? Mais il n'aurait pas trouvé l'argent. C'est moi qui lui ai dit que l'argent était sous le matelas. C'était pas vrai. Comme Fiodor Pavlovitch ne se fiait qu'à moi au monde, je lui avais conseillé de cacher son argent derrière les icônes, car personne n'aurait pensé à le chercher là, surtout dans un moment de hâte. Fiodor Pavlovitch avait suivi mon conseil. Si donc Dmitri Fiodorovitch avait assassiné, ou bien il serait parti le plus vite possible, au moindre bruit, comme font toujours les assassins, ou bien il aurait été surpris et arrêté. J'aurais donc pu, oh, le lendemain ou la nuit même, aller prendre l'argent, et l'on aurait mis le tout sur le compte de Dmitri Fiodorovitch. Et s'il avait seulement frappé sans tuer, alors je n'aurais absolument pas pris l'argent, mais je pensais qu'il aurait en tout cas frappé jusqu'à faire perdre connaissance au vieux. Alors j'aurais pris l'argent, puis j'aurais dit au vieux que c'était Dmitri Fiodorovitch qui avait volé. Je ne comprends pas. C'est donc Dmitri qui a tué, tu as seulement volé. Non pas, non, je pouvais dire maintenant encore que c'est lui. Mais je ne veux pas mentir avec vous, car si en effet, comme je le vois, vous ne comprenez pas encore, et si vous n'avez pas dissimulé avec moi pour me charger seul de toute la culpabilité à mes propres yeux, vous n'en êtes pas moins le plus coupable. Vous saviez, en effet, qu'on tuerait. Vous m'aviez même chargé de l'accomplissement et vous êtes parti. Voilà pourquoi je veux vous démontrer ce soir que le principal, l'unique assassin, c'est vous. Ce n'est pas moi, quoique ce soit moi qui ai tué. C'est vous qui avez assassiné. Mais comment? Mais pourquoi suis-je l'assassin, mon Dieu? Est-ce toujours la question de Tcheremachnia? Arrête, dis-moi pourquoi tu as eu besoin de mon consentement, puisque tu as pris mon départ pour un consentement. Comment m'expliqueras-tu cela? Sûr de votre consentement, je savais d'avance que vous ne seriez pas trop exigeant à propos de ces 3 000 roubles. Égaré, si par hasard les soupçons étaient tombés sur moi, ou si l'on m'avait accusé de complicité, vous m'auriez même défendu. Ayant hérité grâce à moi, vous auriez même pu, pensais-je, me récompenser de mon action et m'en garder de la gratitude pour toute ma vie, car si Fiodor Pavlovitch avait épousé Agrafiana Alexandrovna, vous n'auriez rien eu. Ah, tu avais donc l'intention de me torturer pendant toute ma vie, dit Ivan, les dents serrées. Et qu'aurais-tu fait si je t'avais dénoncé au lieu de partir? Qu'auriez-vous pu dire? Que je vous avais conseillé de partir pour Tcherbania? De bêtises, tout cela. D'ailleurs, si vous étiez resté, rien ne serait arrivé. J'aurais pensé que vous ne vouliez pas et je n'aurais rien entrepris. Mais puisque vous étiez parti, vous m'aviez, par le fait même, assuré que vous ne me dénonceriez pas et que vous fermeriez les yeux sur ces 3 000 roubles. Vous n'auriez pas pu me poursuivre ensuite car j'aurais tout dit au juge. Non pas que j'avais volé ou tué, cela je ne l'aurais pas dit, mais que vous m'aviez poussé à tuer et à voler que je n'avais pas consenti. Croyez-moi, vous n'auriez rien pu dire contre moi. Et moi, j'aurais dévoilé votre désir de voir votre père mort, et tout le monde m'aurait cru, je vous en donne ma parole. Alors je désirais la mort de mon père. Mais certainement. Smerdiakov était très affaibli, mais une force intérieure le stimulait. Il avait quelques projets cachés qu'Ivan pressentait. Continue. Continuez, soit. Je reste donc étendu et j'entends un cri du marine. Grigory était déjà sorti. Tout à coup, il crie aussi et tout se tait. Silence, nuit. Je demeure immobile, attendant. Mon cœur bat. La patience me manque. Je me lève, je sors. Je vois à gauche la fenêtre de Fiodor Pavlovitch ouverte. Je fais encore un pas. J'écoute, me demandant s'il est vivant ou non. Et j'entends le barine faire des A et des O, s'agiter. Vivant, me dis-je, alors je vais de la fenêtre, et je dis au barine, c'est moi. Il est venu, il s'est enfui, me répond le barine, il a tué Grégory. Où ? Là, dans un coin. Attendez, dis-je. J'allais jusqu'au mur, et je me heurtais contre Grigory qui gisait là, tout en sang évanoui. Dmitri Fiodorovitch est donc certainement venu, me dis-je aussitôt, et je me décidai à en finir. Même si Grigory est encore vivant, rien à craindre, il est sans connaissance, il ne verra rien. Je n'avais à redouter que le réveil de Maria Ignatievna. En ce moment, le sang me monta à la tête, la respiration me manquait. Je revins à la fenêtre du barine et je lui dis « Elle est ici, Agrafiana Alexandrovna est venue, elle demande à entrer. » Il tressaillit. « Où, ici, où ? » dit-il avec méfiance. « Mais là, ouvrez donc !» Il regarda par la fenêtre, il ne me croyait pas. Il craignait d'ouvrir, je présume qu'il avait peur de moi, et chose ridicule, je pensais à faire sur les vitres le signal de l'arrivée de Gulchenka devant lui-même, sous ses propres yeux. Il paraissait douter de moi, mais quand j'eus fait le signal, il courut aussitôt ouvrir la porte. Il ouvre, j'entre. Il reste sur le seuil et s'oppose à mon passage. « Mais où est-elle? Où est-elle ?» me dit-il en me regardant fixement. « Et pensais-je, s'il me soupçonne, tout va mal. » Je me sentis défaillir de peur, craignant qu'il ne me laissât pas entrer ou qu'il appelât ou que Marfa Ignatievna arrivât. Bon, je devais être très pâle, je lui dis. « Elle est là, sous la fenêtre. » Comment avez-vous pu ne pas la voir ? Amène-la, amène-la ! Bon, mais elle a peur, les cris ont effrayé. Elle s'est cachée sous l'arbre, appelez-la donc vous-même. Il courut à la fenêtre et y porta la bougie. Grushenska, Grushenska, tu es ici ! Appelait-il. Il n'osait se pencher en dehors de la fenêtre, ni me laisser entrer. Oh, il avait décidément peur de moi. « Mais la voilà !» lui dis-je, je le suivis à la fenêtre et me penchai dehors. « La voilà, derrière l'arbuste, elle vous sourit, regardez donc !» Il me crut tant il était amoureux et il se pencha au dehors. Je saisis alors le presse-papier en fonte, vous vous rappelez, qui était sur sa table. Oh, cela pèse 3 livres. Et je lui assénai de toutes mes forces, un coup sur la tête. Cela entra par le coin. Oh, il ne jeta même pas un cri, et ça fait ça. Je le frappai une seconde, une troisième fois. Je m'aperçus alors qu'il avait le crâne fracassé. Il était tombé à la renverse, tout couvert de sang. Je m'examinai. N'étais-je pas taché ? Pas une marque. J'essuyai le presse-papier. Je le remis à sa place. Puis je pris l'argent derrière les icônes et jetai l'enveloppe déchirée et le ruban rose à terre. Je sortis en tremblant. Je m'approchais du pommier qui a une cavité, vous souvenez-vous? Je l'avais remarqué depuis longtemps, j'y avais même préparé un torchon et du papier. J'enveloppais la somme dans le torchon, puis dans le papier, et je fourrais le paquet tout au fond. Il y est resté pendant 15 jours et je ne l'en ai retiré qu'après ma sortie de l'hôpital. Je rentrais ensuite dans ma chambre, je me recouchais et je pensais avec frayeur. Si Grigory est tué, c'est tant pis. Mais s'il n'est pas tué, il pourra témoigner que Dmitri Fiodorovitch est venu et que par conséquent, c'est lui qui a tué et volé. Et je me remis à gémir plus fort que jamais pour réveiller Maria Inakievna. Elle finit par se lever, vint d'abord à moi, puis s'étant aperçue que Grigory n'était pas là, elle se jeta dans le jardin et je l'entendis crier. Oh, j'étais déjà rassuré. Smerdiakov arrêta. Tout en comptant le crime, il jetait à Ivan les regards en dessous. Ivan le considérait sans bouger, morne. Smerdiakov était très ému et respirait avec peine, la sueur perlait sur son front. On aurait pu deviner s'il avait ou non des remords. Et la porte, fit Ivan. S'il n'a ouvert la porte qu'à toi, comment Grigory a-t-il pu l'avoir ouverte auparavant? Ivan faisait ses questions d'une voix calme. Si quelqu'un les avait vus tous deux en cet instant pour la première fois, il les aurait crus en train de causer de choses ordinaires, d'un médiocre intérêt. C'est une illusion de Grigory, dit Smerdiakov avec un sourire. C'est un homme très entêté. Il aura cru voir la porte ouverte et on ne leur fera pas démordre. C'est un bonheur pour nous, car après cette déposition de Grigory, l'affaire de Dmitri Fiodorovitch est certaine. Écoute, dit Ivan Fiodorovitch de nouveau troublé, écoute. J'avais encore beaucoup de choses à te demander, mais je les ai oubliées. Ah oui, dis-moi seulement, pourquoi tu as décacheté l'enveloppe et l'as jetée à terre. Ben, si le crime avait été accompli par un homme, sachant d'avance quelle était la somme, il n'aurait pas, dans le moment, pris le temps de décacheter l'enveloppe. Autre chose, Dmitri Fiodorovitch, il avait seulement entendu parler du paquet, il ne l'avait pas vu, et il ne pouvait savoir si ce paquet contenait bien réellement l'argent. Il devait laisser tomber l'enveloppe à terre sans se douter que ce serait une pièce à conviction contre lui. Dmitri Fiodorovitch n'est pas un voleur ordinaire, c'est un noble. Il n'aurait pas précisément volé. Dans le cas actuel, il aurait repris ce qui lui était dû. C'est ce que j'ai laissé entendre au procureur de telle manière qu'il a cru trouver lui-même cette idée. Il en était très satisfait. Tu as réfléchi à tout cela sur place, et dans l'instant même, s'écria Ivan Fiodorovitch stupéfait, et regardant Smerdiakov avec terreur. Voyons, dans une telle hâte, peut-on faire tant de réflexions? Tout cela a été calculé d'avance. Eh bien, il faut que le diable lui-même, tu es pas bête. Tu es même beaucoup plus intelligent que je ne le pensais.